Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, une émission proposée par Nathalie Cardon.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau magazine de Vivante Église. Ô Jésus de grâce, change-moi. C'est le titre d'un livre paru aux éditions Baudelaire avec un sous-titre « Seigneur, libère-moi de moi ». Je reçois son auteur et vous avez pu donc le découvrir les semaines précédentes. Bonjour Daniel Desbois.
Bonjour.
Alors, veuf après 53 ans de mariage, psychologue, vous pratiquez l'écoute spirituelle et vous travaillez sur l'articulation entre croissance psychique et expérience spirituelle. Et vous avez pour objectif d'accompagner la personne sur ce chemin grand et beau, qui est un chemin de libération intérieure, et c'est tout un programme de vie. Alors, aujourd'hui, dans ce magazine, à partir aussi de ce bel ouvrage, et chers auditeurs, je vous conseille donc de lire cet ouvrage qui donne des outils précieux sur l'approche psychologique, et nous l'avons vu précédemment, et dans un deuxième temps, et c'est un peu l'ordre du jour aujourd'hui, c'est cette approche spirituelle. Si vous permettez, Daniel Desmois, je reprendrai l'extrait d'un de vos chapitres où vous reprenez l'apôtre Saint Paul. L'apôtre Saint Paul, Jésus lui demandait « Pourquoi me persécutes-tu » Jésus me le demande aussi. Il m'invite à le regarder souffrant sur la croix. C'est à la vue amoureuse de Jésus abandonné, pendu sur le bois de la croix, que je peux être renvoyé à moi-même, parce que cette souffrance qu'il porte est la mienne. Je vois en miroir le poids que j'ai été pour lui et combien je vivais en dehors de ce drame. Jusque-là, je me contentais de savoir, en regardant Jésus en croix, de me dire « Il porte l'humanité souffrante et ingrate jusqu'au jour où j'ai compris douloureusement que ce n'était pas uniquement l'humanité qu'il portait, mais moi particulièrement. » C'est un très beau et très fort passage.
Oui. Oui, parce que ce qui m'a frappé... Quand j'ai vraiment, dans mon cœur, j'ai eu toutes ces paroles, hein. Ce qui m'a frappé le plus, c'est combien j'étais en fait presque inconscient de la persécution que, en tant qu'homme pécheur, je peux occasionner à Jésus, même si je suis priant, je suis régulier vraiment dans ma prière. Ça a été important parce que, pour moi, de découvrir cela, parce que c'est vrai, pendant longtemps, je pensais que Jésus a sauvé l'humanité, quoi. Point barre, quoi. Voilà, c'est bon. C'est un générique. Ah oui, mais après, j'ai compris un jour, mais attends, c'est pas l'humanité qui l'a sauvé, c'est toi. Et alors là, ça a tout changé, là, ça a changé la donne, parce que si je le regarde et que je vois que c'est moi, et non pas lui, mais que lui porte qui je suis dans mes blessures. Donc dans mes blessures, celles que je lui ai occasionnées et celles que j'ai reçues aussi, il les vit. Il vit les deux. Les blessures qui ont été subies et les blessures que j'ai occasionnées, commises. Ça a été pour moi un tournant important dans ma vie parce que là, j'ai pris conscience combien Dieu souffre. Dieu souffre pour chacun de nous. Combien il souffre et combien il nous aime. Parce qu'en fait... S'il est pendu là sur le bois de la croix, c'est pas seulement pour être pendu, c'est pour me dire je t'aime. Alors j'ai une drôle de manière quand même de dire je t'aime par la souffrance. Eh bien oui, c'est vraiment la souffrance qui va être le contrepoison du péché. Et ça, ça a été important pour moi de découvrir combien la persécution de Dieu nous a profondément, nous a libérés, nous a donné la grâce du salut.
Tout le monde peut s'y retrouver.
Oui, heureusement.
Ouais. Un peu plus loin, vous rappelez aussi avec votre, vous parlez en jeu de votre propre expérience, vous rappelez au fond de votre expérience au lecteur que le but n'est pas de se flageller mais de se réveiller. C'est l'heure, lève-toi, crie ma conscience, il est temps que je dise oui, un vrai oui entier à Jésus. Il n'attend que cela parce qu'il a besoin de moi pour être délivré du poids que je pèse sur mon cœur.
Oui, oui. Eh oui. Parce qu'en fait, c'est vrai, quand je regarde Jésus sur la croix, je dis effectivement, c'est moi que je vois. Mais c'est-à-dire qu'il souffre en même temps que moi, Jésus. Il a les mêmes souffrances que moi. Et la seule différence, quand je regarde ses blessures, et quand je connais mes blessures, la seule différence, parce qu'habituellement, quand on est blessé, on va voir Jésus. On va lui dire, Seigneur, fais quelque chose, quoi. Je viens te demander consolation, Seigneur. Je viens te demander consolation. Je souffre. Tu vois bien comme je suis en sang. Et alors, c'est curieux parce que c'est la même chose qu'il attend, lui, de son côté. Il m'attend. Mais il m'attend pour que je le console. Comme si ma consolation, c'est quand même, moi je vais le consoler. Eh bien oui, c'est toi qui vas commencer à le consoler et tu verras qu'il va se passer quelque chose. C'est là que je me suis rendu compte que Jésus nous attend tous, que ce soit déjà même dans le tabernacle, devant le Saint-Sacrement, peu importe, il nous attend, il ne fait que ça. Il nous attend pour qu'on vienne le consoler, pour qu'on valide en fait sa mort. Parce que si je ne le console pas, si je dis ben, « Seigneur, console-moi, guéris-moi, enlève tout », c'est insuffisant. Quelle est ma part de vis-à-vis avec lui et puis surtout ma part de compréhension qu'il souffre et que je vais vivre et je vais traverser sa souffrance avec lui, mais celle qu'il a vécue pour moi. Et alors, je me suis rendu compte qu'effectivement, que lorsque je vais le consoler, parce que je me suis dit au départ, mais toi, qui es-tu pour consoler Jésus? Ben oui, console-le. Et j'avais ça vraiment dans le cœur. Et effectivement, j'ai compris, alors après j'ai eu cette révélation, que en consolant Jésus, c'est pas moi qui console Jésus, c'est le Père. C'est le Père du ciel qui, par moi, va consoler son Fils. Et en fin de compte, il a besoin de ma petite consolation, de rien du tout, qui est vraiment une miette. Il va recevoir le pain en entier, la grande consolation de son Père. Et là, je participe. En fin de compte, à la souffrance qu'il porte pour moi, et ça le libère. C'est en cela que je dis là qu'effectivement, on est là pour le soulager. C'est-à-dire qu'il porte, mais il porte tant que je n'ai pas conscience qu'il est en train de me porter, tant que je n'ai pas conscience qu'il est en train de souffrir pour moi. Dans la mesure où j'en prends conscience et que j'ai envie de le consoler, de l'embrasser, de le chérir, de oh, « Seigneur, c'est pas possible, moi j'ai fait tout ça, ces dégâts, je t'ai mis en miettes. » C'est ça qui le soulage, qui valide sa mort, et qui fait qu'en fin de compte, il me libère. Et j'attends ça depuis des années. Cet amour, ce pardon, en fin de compte, et cette résurrection en moi. Alors, c'est juste pour dire que nous avons les deux mêmes souffrances, les deux mêmes blessures, dans ce vis-à-vis en miroir, hein, lui avec moi et moi avec lui. La seule différence, c'est que ma souffrance, mes blessures, sont porteuses de mort. Les siennes sont porteuses de mort, certes, mais surtout de résurrection. C'est-à-dire qu'il vient, pour me donner la vie dans mes blessures. Donc vous voyez, pour moi, ça a été vraiment la révélation de voir que ce face-à-face, ce vis-à-vis, ma blessure est porteuse de mort, la sienne est porteuse de vie, et il me dit, viens, prends-la, c'est pour toi. Vous voyez, c'est le cadeau du ciel.
Et en même temps, on attend qu'il attend des consolateurs.
Il attend des consolateurs, c'est-à-dire qu'il nous invite tous. Il nous invite tous à le consoler parce que c'est là qu'il porte l'humanité. Il nous invite tous à venir, viens faire ta petite part. Et je vais vous raconter une petite histoire.
Alors on aime bien toujours, hein, dans les émissions, quelles qu'elles soient, on aime bien les histoires. Alors on vous écoute, je vous donne l'autorisation.
Oui, voilà. C'était une religieuse qui vient me voir, qui est dans un piteux état, vraiment dans un piteux état, dans une profonde détresse. Parce qu'elle était considérée comme un déchet depuis sa naissance. On attendait un garçon, c'est une fille qui arrive. Et donc elle a été rabrouée, elle a été rejetée, ignorée, vraiment, vraiment humiliée et humiliée constamment. Parce que c'était l'enfant de trop inutile, l'enfant inutile. Donc cet enfant qui est devenu une jeune femme et qui est devenue religieuse, elle vient dans une détresse profonde. Et puis elle me raconte cela. Et je lui évoque ce que je viens de dire, là, sur Jésus en croix, ce face-à-face, ce vis-à-vis, de venir consoler Jésus, etc. Et quand je lui parle de consoler Jésus, elle me dit, c'est drôle ce que vous me dites là. Il y a quelques années, j'étais tellement mal, une nuit, je me suis levé, Et j'ai été devant le tabernacle. C'était tout sombre, là. Il y avait juste une petite lueur. Je me suis mis devant le tabernacle et je lui ai dit, Seigneur, console-moi. Et elle me dit, tout d'un coup, j'ai senti sa présence. Il était là, mais c'était opaque, là. Il était vraiment là. Et dans mon cœur, ce qui est venu, c'est Jésus qui me dit, console-moi. Et alors, quand elle m'a dit ça, elle s'est mise à pleurer, parce qu'il y a le souvenir qui remontait. Et elle me dit, quand j'ai effectivement prononcé les « Seigneur, je voudrais te consoler, j'ai conscience du mal que j'ai pu faire, du mal que tu as pu supporter avec moi, celui que j'ai subi. » Et elle me dit, et tout d'un coup, il y a eu une espèce d'enveloppe qui s'est mise autour de moi, et c'est Jésus qui me consolait. Donc la consolation est venue après avoir consolé Jésus. C'est ça qui est magnifique. Et c'est vers là que je nous invite à
alors,
aller.
Pour entrer un peu dans ce chemin de consolation, Jésus vient nous consoler. Il a besoin de consolateurs. Je pense aux auditeurs là, qui vous écoutent dans cette émission du jour. Quels sont un petit peu les critères pour entrer et devenir des consolateurs? C'est le rendez-vous dans ce mystère aussi à Gethsémani, le mystère de la passion du Christ. C'est
oui.
là le rendez-vous.
Oui,
et c'est là qu'on devient des consolateurs.
Et oui, ça a été un premier rendez-vous, mais ce que vous avez, bien sûr, que vous connaissez, c'est que les apôtres dormaient à ce moment-là. Et Jésus les supplie et vient une fois, deux fois, trois fois. Vous voyez cette attente de Jésus, il est en train de leur dire, je suis en train de souffrir. Venez, ne me laissez pas, ne m'abandonnez pas. C'est là qu'il commence à sentir l'abandon. Vous voyez? Et on est, en grande partie, on vit souvent comme les apôtres. On fait dodo. Et il nous dit, viens, je t'attends.
Un manque d'amour de notre part.
C'est un manque d'amour face à Jésus.
Une paresse spirituelle.
C'est une paresse spirituelle, peut-être même une ignorance, mais parce qu'on n'en a pas parlé. Et que c'est important d'en parler, ne serait-ce pour s'impliquer, soit plus, soit commencer à s'impliquer. Vous voyez ? Mais effectivement, on a cette tendance. Parce qu'on ne se rend pas compte que Jésus souffre. On n'y pense pas tous les jours. Quoi. On n'y pense pas tous les jours. On aime bien parler avec Jésus, amour, consolateur, miséricordieux, mais enfin, alors là, je vais parler plus de moi. J'ai vécu pendant longtemps avec ce Jésus, mais que j'ignorais au niveau de sa souffrance, qu'il est en train de vivre avec moi ce que je suis, ce que je vis. Je ne me rends pas compte, je crois que je suis seul à vivre ça. Mais non, lui aussi vit les choses. Et il est aussi à Gethsémani avec moi, mais seulement, je l'ignore. Vous voyez, c'est pour ça qu'il est bon d'en parler.
Alors concrètement, comment aider pour répondre à cet appel et le retrouver à Gethsémani, Daniel Desbois?
On va se mettre face à Jésus en croix. On va commencer à le regarder, on s'installe. Et on le regarde.
C'est-à-dire on se regarde plus, mais on le regarde lui.
On se décentre de soi. On est christocentré et non pas égocentré. Donc vous voyez, c'est important d'être dans ce face-à-face avec lui, de le regarder et de savoir qu'il est... C'est moi que je regarde. C'est moi que je regarde au travers de lui, souffrant, et qui me dit « je t'aime ». Et il me dit « je t'aime » quand il est sur cette croix, qu'il est tout déchiré. Il meurt, il est crucifié, non pas par moi, par mes blessures, il est crucifié par l'amour. C'est l'amour qui le cloue, c'est l'amour qui le persécute, c'est l'amour qui le transperce par la lance. Bien sûr que... Et pourquoi je dis que c'est l'amour? Mais c'est parce qu'il m'aime qu'il a accepté tout ça. Donc à l'origine, c'est parce qu'il est dépassé, il est envahi par l'amour. Et c'est parce qu'il est envahi par l'amour qu'il accepte tout ça. Donc c'est vraiment l'amour qui le persécute. Par le mal que j'ai subi, par le mal que j'ai commis.
Alors vous nous rappelez au fond que deux persécuteurs que nous sommes, chacun et chacune, de la persécution à la consolation, devenons des consolateurs.
Oui. Oui, voilà. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'en... Le but n'est pas de se culpabiliser de ce qui est dit, là, de se condamner. Ce n'est pas le propos. C'est égal, ça. C'est simplement être sensibilisé qu'il est là pour me consoler. Donc il faut bien voir que la nature humaine, quand elle est blessée en fonction de l'histoire qu'elle a vécue,
Et on a pu le voir précédemment aussi.
On l'a vu précédemment, en fonction de l'histoire. C'est vrai que je suis, aujourd'hui, je vis les conséquences de cette histoire. Et quand elle est vraiment douloureuse, qu'elle entraîne des difficultés, qu'elle entraîne des problèmes, c'est vrai que la première des choses, quand la personne en parle, qu'elle va voir un prêtre, qu'elle en parle à quelqu'un, elle a besoin, avant d'être responsable de toutes les misères qu'elle vit ou qu'elle fait vivre aux autres, même si elle va en confession, qu'elle va demander pardon, mais elle recommence, elle a toujours besoin, d'abord, avant d'être condamnée, responsabilisée, d'être innocentée. On a besoin d'être innocenté parce que c'est l'enfant qui, à la base, a fait de moi ce que je suis aujourd'hui, mais l'enfant, à la base, il est innocent. Mais si on ne, même adulte, j'ai 40 ans, même si on ne reconnaît pas en moi cette innocence qui a été abîmée à la base, ben il faut qu'au moins aujourd'hui, à 40 ans, qu'on la reconnaisse. Et là, il est bon d'avoir un prêtre qui va faire une prière de consolation pour me dire « ne t'inquiète pas ». Dieu t'aime, ta dignité est toujours là, ta dignité, ta pureté d'enfant est toujours là. J'ai besoin de l'entendre, de recevoir cette consolation, cette grâce d'amour, pour qu'après je puisse envisager que, effectivement, je me suis construit là-dessus, et puis j'ai été après de plus en plus pécheur, puisque je suis blessé, je suis pécheur. Donc, après, je deviens responsable.
Donc l'enfant qui était innocent est devenu aussi l'enfant dans son histoire blessé.
Eh oui, et pécheur. Il devient pécheur, il devient responsable.
Et devient persécuteur.
Et il devient persécuteur. Soit de lui, un peu de lui ou beaucoup de lui, mais aussi de l'autre. Et aussi de Dieu. Il ne faut pas l'oublier. Et c'est là qu'on a ce lien entre la blessure de l'enfance dans son innocence, qui fait après la blessure peut-être contre lui-même, quand il devient grand, qu'il ne s'aime pas, qu'il se rejette, qu'il est dans la peur, la blessure qu'il peut occasionner au cœur de l'autre. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi le Christ. Et c'est pour ça que moi j'aime bien en parler quand on a des conflits, même de couple ou avec un enfant, toujours savoir que quand on a un conflit de couple, attention, parce que quand on va riposter, qu'on va se défendre, qu'on va agresser l'autre ou qu'on se sent agressé, le Christ est là et le Christ est sur la croix. Donc il faut le savoir. Que je puisse tenir peut-être ma langue à ce moment-là, mon élan de violence que je pourrais avoir contre l'autre, attention, le Christ aussi, il va prendre la même chose que tu vas donner à ton époux ou à ton épouse. Alors le but n'est pas toujours pareil, hein, je vous dis, le but n'est pas de se condamner, ce n'est pas le propos.
Le but n'est pas de se flageller,
le but c'est de savoir, d'en avoir conscience. C'est ça qui fait la construction.
Cette conscience éveillée est le début peut-être d'une entrée, au fond on va parler de libération au cours de ces échanges, mais le but est d'être libéré en vue de la guérison, et c'est la question aussi d'être sauvé. Cette consolation, consoler Jésus, se laisser consoler, mais en vue d'une guérison totale qui invite à être sauvé, mais
on l'a pas.
Et on ne l'a pas. Et donc on est parfois un peu résistant, un peu frustré, agressif, vous parliez d'agressivité.
Oui, on est résistant parce que la guérison, on ne l'a pas, on la souhaite de tout notre cœur et puis on la demande. Mais il faut bien se dire que la guérison, l'épreuve est là pour me faire avancer dans la foi et me faire avancer sur mon chemin de sanctification. Ça, c'est absolument fait, qui est fondamental. Il y a une des paroles que j'avais évoquées, c'est « avant d'avoir souffert, je m'égarais ». C'est dans le psaume 118. Avant d'avoir souffert, je m'égarais. Donc la souffrance, au travers de l'épreuve, même si elle est depuis l'enfance, au travers de la souffrance, entraîne un égarement. On se perd quand on est blessé. Quand on est blessé, on est déjà pécheur après, parce qu'on va se défendre. On est pécheur pourquoi ? Parce qu'on va se défendre, on va donc se couper de l'amour. Et en se coupant de l'amour, on se coupe de Dieu. Et on est pécheur.
Et on se sépare de l'amour, du grand amour.
Et on se sépare du grand amour.
Et on est malheureux.
Et oui, c'est la conséquence.
Daniel Desbois, je vous propose de vous retrouver dans quelques instants après cette plage musicale. À tout de suite.
Seigneur, je viens pour implorer sur mon péché de tout mon cœur, de toute ma foi.
présence. Vivante Église, Nathalie Cardon.
Suite de ce Vivante Église avec, pour intervenant, il vous reste avec nous, Daniel Desbois, hein, auteur de ce livre « Ô Jésus de grâce, change-moi ». Et il y a un sous-titre, « Seigneur, libère-moi de moi ». Ce livre est en deux parties, nous l'avons vu précédemment, lors des missions, avec une approche psychologique plein d'outils précieux. Et je vous conseille ce livre. Et puis là, nous sommes dans une approche qui est cette approche, en fait, on va se rapprocher le plus près de Jésus. Au fond, pour s'abandonner et répondre à son appel. Alors, surprenant, mais vous consacrez, et vous allez nous dire pourquoi, et je vais lire un petit extrait, un chapitre à Jésus, Jésus Eucharistie. Vous écrivez le drame de ce monde qui ne croit pas, ou si peu, mais aussi du monde chrétien qui manque d'enracinement dans l'Église et de ne pas avoir conscience de la grâce exceptionnelle que Jésus nous offre dans le sacrement eucharistique alors qu'il donne entièrement sa vie pour que nous vivions en lui. C'est une tragédie. Aujourd'hui, on perd conscience de ce don total que Jésus fait. Il se donne à chacun, à chacune des Eucharisties individuellement. Qu'est-ce qui se passe, hein? Nous le persécutons encore.
C'est un autre temps de persécution. Oui, c'est un autre temps de persécution. Il faut savoir que...
Et pourquoi ce chapitre?
Justement, parce que c'est toujours en lien avec ce que j'évoquais là, lors de la précédente intervention, la persécution de Jésus. Alors, la persécution de Jésus, elle va continuer, la passion continue même, justement, au moment de la communion sacramentelle. Vous voyez ça? Mais seulement, on n'en a pas conscience. Et j'ai amené cela, j'ai dit cela de manière à sensibiliser de l'importance de se préparer quand on va se lever pour aller vers l'autel. Savoir que, trop souvent, mais moi je suis passé par là, hein, aussi, en fin de compte, on va à la communion. Quoi. C'est une habitude aussi.
Donc il y a une routine.
Il y a une espèce de routine, on ne se rend pas compte.
Pratique religieuse, hein, c'est une pratique, à travers les sacrements.
Voilà. Et oui. Puis on ne se rend pas compte, mais on fait même, on, c'est pas, c'est innocent, hein, quand on le fait, c'est par innocence, c'est pas par... c'est vraiment par habitude qu'on peut aller, on peut aller à la communion, en fait... Mais c'est un moment qui est grave parce qu'il est plein de souffrance et plein d'amour. C'est l'amour qui est dominant, évidemment. Mais je me rends compte que, déjà, quand j'y vais, dans quel état je suis intérieurement? C'est important de savoir, est-ce que tu es en paix avec toi? Parce que si je ne suis pas en paix, si je me suis, je me suis accroché avec mon épouse, ou avec un de mes enfants, ou avec quelqu'un, ou alors au travail, et que je viens chargé avec une colère, je ne suis pas tranquille, je ne suis pas en paix, il faut bien se dire que je vais aller vers Jésus avec ce paquet-là. Et alors je suis content, parce que je vais bénéficier de la grâce de Jésus qui va venir en moi. Mais il faut bien se dire que je vais recevoir l'hostie qui va la mettre sur ma langue, il faut bien se dire qu'il va me prendre dans l'état dans lequel je suis, intérieurement. Si je suis en paix, si je suis heureux, si je suis tendu vers lui, il faut penser quand j'avance vers lui, je sais qu'il y a une hostie qui m'est destinée. Et c'est magnifique. C'est extraordinaire.
Cette hostie, c'est la présence réelle. C'est Jésus qui se donne.
C'est Jésus qui va se donner.
Il va se donner.
Et vous voyez ce moment. Et je me rappelle quand ce moment où on avance vers l'hostie, des fois, moi, j'avais l'esprit qui était un petit peu déplacé. Je regardais une personne là, à droite, à gauche. Et puis, en fin de compte, quand j'ai pris conscience de tout ça, je me dis, attends, il faut que tu rentres en toi. Et que tu y ailles très, très noblement pour accueillir le roi. Je vais aller accueillir le roi, je ne vais pas aller les mains dans les poches, comme ça, vous voyez. Donc, pour moi, ça a été important de prendre conscience qu'il est en train de m'attendre. Déjà, il m'espère, lui. Il m'espère. Mais est-ce que je l'espère, moi, vraiment? Ou est-ce que je vais juste pour prendre l'hostie et puis partir après? Non. Il est là. Il m'attend parce qu'il veut me donner la vie. Mais est-ce que tu as conscience que tu portes en toi la mort? Et qu'il va te donner... de la mort, quoi. Je vais pas dire une part de mort, disons, hein. Il va te donner cette part de vie dont tu as besoin. Et donc, vous voyez, ce moment-là qui est précieux de rencontre, il faut en avoir conscience. De manière à ce que, quand je le prends, il faut bien se dire que quand je vais l'avaler, je vais être en contact avec lui et je vais ensuite l'avaler. Il faut bien se dire qu'il rentre dans mes enfers. Il ne rentre pas sur un terrain qui est plein de fleurs, de délicatesse, d'amour, de tendresse. Il vient dans mes enfers.
Il va dans tous les lieux boueux.
Dans tous les lieux boueux, il y va. Et il va que pour ça. Ce qui est déjà libéré, ce qui est déjà bonifié, grassé par son amour, pas de problème. Mais il veut aller dans les zones sombres.
Les plus obscures.
Les plus obscures. Et c'est important que j'ai conscience de cela. C'est important parce qu'il faut bien se dire qu'au moment, et ça a été important pour moi de comprendre ça, que, mais tu te rends compte, au moment, c'est le corps et le sang de Jésus que tu reçois. Ça veut dire que quand je vais le recevoir, il va mélanger son sang à mon propre sang. Il va y avoir le sang et le mien, le sien et le mien qui sont unis. C'est-à-dire, il va aller dans toutes les parties de mon corps, les petits vaisseaux les plus capillaires, tout mon corps va être possédé par lui. Je suis possédé par Jésus. Mais c'est extraordinaire de savoir, ah, je suis Jésus. Je suis Jésus à ce moment-là. Et vous voyez l'importance de dire, waouh, Seigneur, tu viens, et je suis toi, et toi tu es moi, je suis comme toi. Et il faudrait que ça dure. Mais ça dure le temps que l'hostie va le pain de vie va être consommé et consumé. Vous voyez? Mais pour moi, c'est important. C'est magnifique.
C'est grand, c'est grand. On pourrait, au fond, s'interroger et poser la question, puisque vous parlez de cette communion eucharistique, la manière dont on approche, et au fond, la manière dont on va se préparer, dont on va préparer son cœur pour le recevoir dans cette sainte hostie. Où en est mon désir de le recevoir? C'est la question du désir.
C'est la question du désir. Si je vais vraiment... j'ai lu quelquefois des saints, une sainte particulière, je ne sais plus laquelle c'était, mais peu importe.
Vous donnez d'ailleurs quelques belles citations de
oui,
saints
oui.
qui parsèment un peu ce livre.
Mais celle-là, je ne la donne pas, parce que bon, je n'ai pas pensé, hein, tout simplement. Mais l'impatience que les saints ont, il leur tarde d'avoir, oh là là, il va y avoir la communion, est-ce que tu cours quand tu vas à la communion? Est-ce que ton cœur, il est déjà propulsé vers l'autel? Et c'est, ben on l'apprend tout doucement. On demande cette grâce au Seigneur parce que on n'est pas au niveau humain là. Hein. On est au niveau divin. Donc l'homme il fait avec ses petits moyens humains, mais il faut demander la grâce pour que toute cette intention et ce désir, cette tension vers Dieu soit divinisée par lui, par grâce. Il faut que je la lui demande. Mais le bon Dieu il n'attend que ça. Il veut me donner, il veut tout me donner. Est-ce que je lui demande, première chose? Est-ce que je veux bien le recevoir? Deuxième chose. Et si je me laisse posséder par lui, même si c'est 10%, 15% ou 20%, eh ben je demande toujours plus.
C'est très beau, vous écrivez toujours dans ce chapitre, et puis puisqu'on est au cœur de ce grand mystère de l'Eucharistie, vous écrivez « L'Eucharistie est la communion de deux abandons d'amour. Toi avec moi et moi avec toi. » C'est toute la question au fond de cet abandon.
Oui,
qui parfois pour un chemin, pour toute une vie.
C'est toute une vie.
C'est toute une vie.
Qu'est-ce que c'est difficile.
Donc j'ai presque envie de dire en vous écoutant et ceux qui vous écoutent, ne vous découragez pas, chers auditeurs, si vous êtes sur ce chemin qui est un peu douloureux, difficile, ou que vous ne pouvez pas accéder aussi à la Sainte Communion. Des personnes qui sont peut-être
bien sûr.
Divorcées.
Mais elles reçoivent autant, en fait. Par la bénédiction, c'est le Christ hein, qui les bénit. Donc elles reçoivent autant, c'est aussi, elle est là, la consolation. C'est pas qu'une petite bénédiction, comme un prêtre pourrait le faire en dehors de cela. Non, c'est le moment de la communion sacramentelle qu'il y a. Et donc c'est le Christ qui est là et puis qui va Quoique même en confession, c'est aussi le Christ. Hein, mais enfin, c'est particulier. Quoi.
Donc, alors ça tombe bien, et vous le rappelez aussi, hein, puisqu'on parle de l'Eucharistie, le recevoir. Hein, et si la guerre est à l'intérieur du cœur, hein, s'il y a eu peut-être des actes commis, il peut y avoir aussi réparation avant d'approcher de la Sainte Eucharistie, avec cet autre sacrement de l'Église. Hein. Il est important, il est réparateur, ce sacrement de confession.
Bien sûr. Et oui, c'est pour ça que c'est important de se poser la question dans quel état est mon cœur quand je vais aller voir le Jésus, en fait. Ben, si j'ai besoin de... Il y a quelque chose de lourd que je porte, il vaut mieux aller voir le prêtre avant même.
Quand vous parlez de lourd, c'est de l'ordre du péché.
Oui, voilà, c'est de l'ordre du péché. Il est bon d'aller voir le prêtre pour que je sois libéré, de ce que je sois désencombré. C'est autant que Jésus n'aura pas à souffrir.
Quelles sont les conséquences du péché?
Ben, les conséquences du péché, c'est la mort, le mal.
La tristesse.
Hein. La tristesse, la colère, la peur, la colère. C'est tout cela. C'est tout ce qui m'éloigne de Dieu. C'est la. Voilà. C'est
la suffisance,
la
parfois, le mépris envers l'orgueil. Son prochain, l'orgueil.
Vous savez, il y a trois tendances un petit peu générales. C'est l'orgueil. On est tous concernés là-dessus, avec un pourcentage.
Vous comme moi.
Oui, absolument. Oui.
Et vous aussi, chers auditeurs.
On est tous concernés
par
l'orgueil.
C'est bon de se rappeler.
Il y a l'impureté aussi. Il y a l'impureté qui fait des ravages, hein, en fait. On est tous concernés par ça. Et puis, il y a aussi la captation, la possession, la mainmise sur les choses, avoir, posséder. Oui, mais pendant que je cherche à me rassurer, à posséder le monde, c'est d'autant que je n'accorde pas au Christ. Parce que ce n'est pas parce que je possède la terre que je vais posséder le ciel. Non, c'est parce que tu possèdes le ciel que tu as moins besoin de posséder la terre. Vous voyez, c'est cet équilibre-là. Bon, on fait ce qu'on peut, hein, évidemment. Mais vous voyez, c'est ces grandes tendances qui se déclinent après par d'autres péchés. Hein, c'est les chutes de Jésus, hein. C'est, voilà, et puis même au désert, c'était vraiment ça. Hein. Donc, on a besoin de confesser toutes ces choses-là. Eh bien, voilà, le Seigneur a mis la grâce du sacrement de réconciliation pour nous.
En vue de recevoir, ce beau cadeau qui est le pardon.
Voilà, c'est ça. Alors, la miséricorde est toujours
et
là.
En fait, ce sacrement de réconciliation... qui invite à recevoir ce pardon sans limite du bon Dieu, est aussi un lieu, j'en profite, hein, de guérison dans ce sacrement. Et puis ces deux sacrements, hein, puisque du sacrement de confession, il y a aussi le sacrement eucharistique.
Oui.
Ce sont des lieux et des sacrements qui viennent profondément opérer, puisqu'on parle beaucoup de guérison aussi avec vous.
Oui. Et oui, ils sont tellement importants parce que, au moins quand je vis, je fais l'expérience par le sacrement de réconciliation du pardon de Jésus, il me donne là, une grâce immense pour pardonner à celui à qui j'ai du mal. À qui j'ai du mal à lui dire « je te pardonne ». Donc vous voyez, c'est pas un pardon reçu et puis que je vais consommer, c'est aussi pour le donner à d'autres. Ça sert à ça aussi, le sacrement de réconciliation. Ben, on ne peut pas demander plus. Hein. Il nous donne tout, là, à
donc
ce moment-là, par la miséricorde.
Approcher avec un cœur contrit.
Oui.
Et vous parlez aussi, les larmes sont nécessaires et réparatrices. Lorsque nous vivons pleinement notre état de pécheur pardonné.
Oui, alors là, bien sûr, quand on a la possibilité, c'est... alors là, je ne voudrais pas me tromper là, dans la citation, je vais donner une citation, c'est Saint-Siméon, le Saint-Siméon qui dit justement, on n'a jamais vu, au grand jamais, une âme qui puisse être belle et propre sans que la grâce, les larmes, n'aient pas enlevé la crasse du péché qui l'encombre. Voyez. Et donc il dit que c'est vraiment réparateur parce que ce sont les larmes qui vont laver effectivement le mal qui nous habite. Et quand on arrive, alors c'est avant la confession, pendant la confession, après la confession, ou à un moment dans notre coin prière où on a conscience du mal que l'on a pu faire au Christ, on peut être touché par grâce et puis avoir des sanglots qui viennent, mais comme ça, c'est pas au niveau émotionnel que ça se passe, c'est au niveau plus spirituel. Et donc là.
Alors comment distinguer
On le sait comme ça. on le sait, c'est pas explicable. Je suis incapable de vous le dire.
Il y a un moment de grâce.
C'est un moment de grâce. C'est la grâce qui passe, et puis boum, on s'y attend pas. Et puis paf, ça sort.
Elle arrive.
Elle arrive, et les larmes, c'est les larmes du bon Dieu. Il faut bien se dire que dans ces moments-là, c'est pas mes larmes qui coulent, ce sont les larmes de Jésus en moi. Parce que je le porte, il est moi, et moi je suis lui.
Et on n'est pas dans les émotions.
Et on n'est pas dans les émotions.
On est beaucoup dans les émotions aujourd'hui.
Ben oui, on fait que ça.
Oui.
Alors bien sûr, ce sont des petits moments qui sont des moments privilégiés. Si on pouvait tenir longtemps dans cette présence, s'accoutumer à cette présence de Jésus en soi, évidemment, ça serait extraordinaire, ça serait merveilleux. Mais on est en route, on fait ce qu'on peut. On est des pauvres, on est des pauvres pécheurs. Mais c'est ça le propre du chrétien, son identité, c'est que c'est un pécheur pardonné. Et ça, c'est merveilleux. On ne peut pas demander plus, quoi.
Au fond, c'est plein d'espérance et ça tombe bien. On est dans ce jubilé de l'espérance. Il est venu nous sauver.
Il est venu nous sauver.
Alors, où en est notre désir? Voilà, on parlait du désir, désir de le recevoir dans la Sainte Eucharistie. Où en est mon désir de lui donner ma vie et de l'accueillir dans ma vie? Est-ce que j'ai un désir aussi de la rencontre?
C'est le désir de la rencontre, c'est ça. Il faut le vouloir. Il y a toujours la part de
volonté. Il y a une décision, il y a une prise individuelle et personnelle.
C'est la volonté.
Ouais. C'est la part de volonté.
C'est la part de volonté.
Donc, si je n'ai participation.
Pas... Et oui, voilà, parce que je suis sauvé, mais le saint Paul nous le dit en espérance, je suis sauvé. Jésus a tout fait, il a tout accompli, mais il me demande maintenant, fais ta part. Et si je ne fais pas ma part, Jésus attend, il continue à porter ce que j'aurai ma part à porter, il continue à le faire. Bah, parce que c'est son amour qui l'oblige, il est piégé par l'homme. Dieu est piégé par l'homme parce qu'il aime. Il est dépendant de l'homme. C'est incroyable,
ça, c'est
quoi.
Ça, ouais.
Dieu est dépendant de l'homme. Attends, c'est le monde à l'envers, quoi. Eh bien oui, il est dépendant de l'amour. Parce qu'il nous a fait par amour et parce qu'il est amour.
Magnifique. Et c'est ainsi que nous terminons, et peut-être avec un de vos passages, cette émission de Vivante Église du jour, où vous proposez, à la fin de ce chapitre, un moment à passer aussi avec Jésus, avec... deux, trois questions. Dans quelle disposition de cœur suis-je quand je vais vers l'autel pour aller communier? Comment est-ce que j'accueille sa présence dans mon cœur? Est-ce que je pense? C'est ainsi qu'on termine avec cette question. Vous interrogez aussi le lecteur. Interrogeons aujourd'hui pour conclure cette émission de Vivante Église, Daniel Desbois. Je vous remercie de votre participation. Cette question, est-ce que je pense à remercier plusieurs fois dans la journée Jésus d'être si présent en moi. Merci Daniel Desbois. À la semaine prochaine.
Merci.